relevez la tête, car votre rédemption approche.
Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Jésus disait à ceux qui l'écoutaient, « Mais quand vous verrez Jérusalem, investie par des armées, alors sachez que pour elle, la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront dans ses murs s'éloignent, et que ceux qui seront dans la campagne n'y rentrent pas, car ce sera le temps de la vengeance, où s'accomplira tout ce qui est écrit. » Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce temps-là. Il y aura en effet une grande détresse dans ce pays et de la colère contre ce peuple-ci. Les gens seront passés au fil de l'épée, seront amenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que le temps des païens ait leur terme. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les astres. Et sur la terre, les nations connaîtront l'angoisse, rendue inquiète par le bruit de la mer et son agitation. Tandis que des gens mourront de frayeur, dans l'attente de ce qui devra arriver à l'univers, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme, arriver dans une nuée, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, prenez confiance et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Mes bien chers frères et sœurs, nous entrons ce soir dans cette retraite avec cette Eucharistie que nous avons entendue, et je voudrais dire deux choses dans cette Eucharistie. La première, c'est de rappeler les événements dont on a entendu parler, et ensuite un mot, une réflexion sur la colère de Dieu qui est au cœur aussi de cette Eucharistie. Pour la première partie, disons que c'est des rappels de l'histoire qui a eu lieu et qui sont en même temps une prophétie pour nous, parce que peut-être ils nous indiquent ce qui va arriver aussi. Une prophétie, c'est une annonce d'événements passés, mais qui ont aussi le pouvoir de pouvoir se reproduire selon ce que le Seigneur veut, comment il veut conduire son peuple. Jérusalem est une ville qui a été plusieurs fois détruite dans le passé. Et donc, cette annonce de la destruction du Temple et de Jérusalem aura lieu une fois de plus dans l'année 70, c'est-à-dire 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Le prophète Daniel, 150 ans avant, avait déjà aussi prophétisé cette catastrophe. La ville et le sanctuaire seront détruits par un prince qui viendra. Un prince qui viendra et qu'il est venu, Jésus. Le premier signe que Jésus donne est un investissement de Jérusalem par les armées ennemies. Je ne peux m'empêcher de penser à l'annexion de la Crimée, et à sa suite à la guerre d'Ukraine, avec toutes ces armées romaines que Titus lui-même encercle pour détruire le temple par le feu. Jésus donne deux prophéties. La première, c'est une dévastation qui aura lieu après l'investissement. Et deuxièmement, c'est une exhortation à quitter les lieux. Eh bien, les chrétiens ont été avertis. Ils ont compris le sens, eux au moins, alors que nous ne le faisons souvent pas, de cette prophétie. Et ils ont quitté Jérusalem à temps. Ils se sont réfugiés dans une petite ville qui s'appelle Pella, et à l'est du Jourdain. Et à ce moment-là, les Romains ont massacré combien d'hommes ? Je crois que j'ai lu que l'historien Joseph parle de 1 100 000 hommes et femmes à ce moment-là qui ont été tués par les Romains. Vous vous rendez compte de ce massacre terrible ? Et 90 000 qui ont été envoyés en captivité. C'est-à-dire que cette histoire continue dans ce drame. Et en 132, une nouvelle insurrection contre les Romains, avait été menée par Bar Kova. Et la répression a amené la reconstruction par l'empereur Hadrien d'une ville nouvelle. Il a complètement rasé Jérusalem et même interdit à tout juif, sous peine de mort, de fouler, d'entrer dans la ville. Eh bien, devant ces événements, c'est alors que Jésus parle de la colère de Dieu. C'est un mot qui peut nous être étonnant de la part de la bouche de Jésus, qu'il parle de la colère même de Dieu. Et pourtant, il fait une allusion à ce que le prophète Daniel avait lui-même annoncé. Oui, la colère de Dieu est passée par le glaive, la déportation, l'installation donc de tous ces Juifs qui ont été déportés et qui ont pendant combien de siècles, 20 siècles, ont erré avant de retrouver par la déclaration de l'ONU en 1947 la création par Ben Gourion le 14 mai 48 de l'État d'Israël et les Juifs ainsi sont revenus dans la Palestine et nous voyons aujourd'hui. Et nous avons, c'est pas la peine de rappeler tous ces événements qui ont eu lieu, et ça a été une des causes aussi en même temps du monde palestinien qui a été refoulé et puis cette guerre qui n'en finit pas. Alors Jésus parle de la fin du temps des nations. Eh bien, on peut que penser que le temps des nations a commencé avec la fin de ces catastrophes. Et ce qui a amené aussi la naissance de l'Église, parce que juste après le Christ, c'est une nouvelle histoire qui va maintenant se manifester dans le monde, c'est l'Église elle-même. Et elle va prendre, d'une certaine façon, le relais avec l'histoire d'Israël qui a échoué à reconnaître son Messie, et qui est certainement la cause de tous ces maux qui sont intervenus. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train d'oublier le Seigneur Jésus lui-même. Le centre de l'histoire s'est maintenant déplacé. Il n'est plus l'ancienne alliance dont le peuple juif était chargé pour régir la vie des hommes, mais c'est la nouvelle éternelle alliance, celle que nous célébrons à chaque Eucharistie. Ce temps qui est le nôtre, au sens de Paul, est une sorte de mise à l'écart d'Israël pour que s'accomplisse, selon Paul, une réconciliation pour le monde et qui doit se terminer par leur admission et qui sera une résurrection d'entre les morts. Cet événement qui est peut-être devant nous, parce que on sent combien on est peut-être très proche même. Saint Paul nous dit que ce mystère d'Israël a commencé avec l'élection que Dieu avait faite d'Israël et que à cause de cette désobéissance, et cela lui a valu ses 20 siècles d'exil. Alors, la question que posent beaucoup, c'est de savoir si l'Église elle-même a repris le flambeau, c'est-à-dire que quelle est la situation maintenant d'Israël. Eh bien, je crois que l'Église continue sa mission, mais il y a une très grande différence. C'est quand on voit aujourd'hui les événements par lesquels, d'une certaine façon, Israël d'abord se défend normalement, parce que quand un peuple est attaqué, c'est normal de se défendre, mais en même temps, en utilisant les armes. J'ai entendu un rabbin dire que Israël est en train de se fourvoyer, parce qu'en fait, la mission d'Israël, c'était Dieu, ce n'était pas les armes, c'était la prière. Et d'une certaine façon, on peut dire que l'Église, à cette question-là, si l'Église a remplacé Israël, ça, on peut dire que l'Église, elle, est pacifique. Nous n'utilisons pas les armes. Nous avons une seule arme, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est notre union à Dieu. Nous vivons de Dieu, nous n'avons pas besoin de ces armes. L'Église est une chose extraordinaire dans le monde quand on pense à ça. La deuxième question, celle qui pose, puisque maintenant l'Église, on peut dire qu'elle est au cœur de l'histoire et qu'elle est très fidèle à la volonté du Seigneur et qui n'est pas venue avec les armes au moment de sa passion, mais qui a subi la mort pour sa résurrection. L'autre question qui est au cœur, me semble-t-il, aussi de cet évangile, c'est la question de la colère. La question de la colère de Dieu. Ce mot peut-être, ce concept peut-être difficile à accepter pour nous. Hein, il est surtout représenté dans l'Ancien Testament, la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, n'y a-t-il pas une colère de Dieu? Et cette colère, quelle est-elle? Sous quelle forme? Moi, je trouve personnellement qu'il y a une prophétie que nous donne aujourd'hui le pape Paul VI quand il refuse de venir en France. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé en France par la célébration des Jeux Olympiques, ça a été une abomination, c'est un blasphème. Et je trouve que là, il y a une colère de Dieu qui se manifeste. Qu'est-ce qui nous attend en France? Moi, j'ai l'impression que la France devra payer ce qu'elle a fait dans ses représentants. Et d'une certaine façon, je lis le refus du pape de venir en France comme une profession, comme une colère, comme l'expression même d'une certaine colère de Dieu. La colère de Dieu, elle est manifeste à travers tout ce que nous vivons, avec l'apostasie dans laquelle nous sommes placés dans ce monde, avec tout ce qui est la destruction de l'homme, de ses valeurs fondamentales, de la vie depuis le début jusqu'à la fin, de tout ce à quoi nous assistons. Il y a une colère de Dieu. Alors, la colère, même à un moment donné, dans une apparition de la Vierge Marie, qui disait, j'ai de la difficulté pour retenir le bras de mon fils. Oui, il y a une colère de Dieu sur le monde, me semble-t-il. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à prier. Que je crois que c'est un autre aspect de la nécessité de prier pour que le Seigneur, non pas épargne, mais parce que tout en sachant que Dieu a été outragé, depuis les origines d'ailleurs, et qu'il est chaque fois dans tant de monde qui oublie qu'il est créé par Dieu, que Dieu lui donne qui lui donne un bonheur incroyable qui nous attend tous. Et que de là, on laisse compter, on ne tient pas compte de tous ces dons. Je crois que c'est d'une façon très simple. Si vous regardez dans vos familles, si vous regardez dans vos amis, combien vraiment aujourd'hui vivent la vie chrétienne, combien ils se nourrissent vraiment du Christ, combien ils vivent de Dieu aujourd'hui. Il y a un abandon, on dit qu'il y a même un affaissement de l'Église dans le monde. Il y a tout cela aujourd'hui. Et puis en même temps, avec tous ces événements, avec tous ces événements de guerre et de misère que le monde connaît, comment le Seigneur peut réagir en voyant toute cette misère du monde? Il y a une collègue, il avait créé quelque chose d'extraordinairement merveilleux ce monde. Et on voit aujourd'hui que on a tout perturbé aussi, des lois normales de la création. Il y a tout un ensemble de choses de ce genre. Alors je crois que c'est des aspects que nous vivons tous les jours, mais qui nous appellent réellement à prier et à faire comme le Monseigneur de Kerimel au moment où à Toulouse il y a eu les portes de l'enfer. Je ne sais pas combien de gens ont suivi ça.
Il paraît qu'il y en a eu beaucoup, mais pas nous.
Mais c'est incroyable. On fait une démonstration même des portes de l'enfer, et au même moment, il y a tout un tas de gens qui suivent ça. Heureusement, alors, il a demandé, le Seigneur de Kerimel a demandé qu'on vive, qu'il y ait pour le pardon.
Oui, le 16 octobre, fête de Sainte Marguerite Marie. Et consécration de la ville et du diocèse au cœur de Toulouse, au cœur sacré de Jésus. Voilà.
Voilà, bon. Alors, c'est peut-être loin de notre entrée dans la retraite d'aujourd'hui, mais nous y entrons quand même en remerciant le Seigneur et puis et puis en étant de notre temps, en vivant cette prophétie et en priant pour la vie et le salut de ce monde, que cette retraite puisse revivifier encore, réactiver encore ce besoin de la prière pour ce monde.